je ne sais pourquoi, dans sa grâce. Un chant, un vieux chant qu'on chantait souvent, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, repris d'une manière un peu plus, pas moderne, parce que le vieux jazz ça commence à dater, mais plus rythmé. Et ce chant dit ceci, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi ? Je ne sais pourquoi, dans cette grâce de Jésus, il efface mon péché. Quelques couplets plus loin, il dit, je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Je ne sais quand l'agneau, l'époux dans sa gloire, avec lui, me prendra. Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Ça, c'est le refrain. Et j'attends son retour. Et je voulais, cette semaine, un texte m'a touché. Et puis en réfléchissant à cette introduction, j'ai pensé à cela. Ce texte est dans Ésaïe 25, versets 6 à 8. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. De mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile. Le voile qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Après beaucoup de prophéties et de textes de ce prophète Ésaïe sur les malheurs qui vont arriver, sur le jugement, sur les nations. Ésaïe lève les yeux vers le ciel. Et il nous donne tout à coup ce passage, un vrai psaume, une prophétie d'espérance. Et après toutes ces prophéties de malheur, je dirais, il y a comme une lumière, un phare dans la nuit, hein, comme dit le chant, une lueur d'espérance. Verset 8, il anéantit la mort pour toujours. Car l'Éternel a parlé. Et il est vivant. Et quand il parle, ce qu'il dit, il le fait, il le réalise. Et cette promesse de ce texte d'Ésaïe a été réalisée, nous le savons, en Jésus-Christ. Paul d'ailleurs reprend cette promesse et la transmet comme à nouveau pour nous aujourd'hui, dans notre présent, dans ce que nous vivons. Et il dit ceci, lorsque le corps mortel aura revêtu l'immortalité, hein, il dit, ainsi s'accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, soyez fermes. Inébranlables. Ah, ça c'est pour moi. Et pour vous aussi, un petit peu. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ferme, inébranlable, progressons, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Quoi de plus motivant pour louer, célébrer, faire culte ensemble? Anne-Catherine a choisi un texte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous lire? Je me réjouis de l'entendre nous apporter ce que le Seigneur lui a mis à cœur pour notre communauté. Et d'avance, nous la bénissons dans ce qu'elle va nous dire. Ça se passe dans 1 Roi, au chapitre 21. On lira tout le chapitre à deux voix, enfin, chacun un morceau. J'aurais envie de commencer comme un conte, vous savez. Il était une fois. Après ces événements, voici ce qui arriva à Naboth, c'est un monsieur donc qui s'appelle Naboth, de Jisréel. Il avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Donne-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai, à la place, une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra chez lui maussade et furibond à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. En fait, il boude. Sa femme, Jézabel, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Lui dit, « J'ai parlé à Naboth de Jisréel et je lui ai dit, « Donne-moi la vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme, Jézabel, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté en Israël ? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, de Jisréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes, « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui deux vauriens, qui démagneront ainsi contre lui. Tu es un maudit Dieu et le roi. » Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé, dire, d'après ce qu'il avait été écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne, firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisréel, qui a refusé de te la donner pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jisréel, afin d'en prendre possession.
Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi. « Descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Quoi ? Tu as commis un meurtre et tu prends possession ? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Me voici, je vais faire venir le malheur sur toi. je te balayerai, je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Achab, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baïcha, fils d'Aïa, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel a parlé aussi pour Jézabel, et il a dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoriens, que l'Éternel avait dépossédé devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et jeûna. Il couchait avec le sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison.
Bonjour, merci de votre accueil. Ça me fait toujours bien plaisir de vous retrouver. C'est vraiment dégoûtant. Les mots nous manquent pour dire combien on est dégoûté et choqué que Naboth soit froidement assassiné pour une simple question de vignoble. Dégoûté encore de voir Jézabel organiser un crime aussi crapuleux avec la bénédiction de son mari. La Bible est réaliste, elle n'est pas un livre sacro-saint qui ne raconterait que de belles histoires par peur de se salir. Avec courage, les auteurs bibliques osent dénoncer le mal. Et le prophète Élie risque sa peau en allant dire à Achab le mal qu'il a commis. Mais arrêtons-nous d'abord sur la première partie de notre texte qu'a lu Paul Robert, les versets 1 à 16. Et vous allez voir, c'est un texte très, très bien écrit et très structuré. Alors Achab est de mauvaise humeur, car il n'arrive pas à satisfaire ses envies. Il a beau donner des ordres, il n'arrive pas à posséder la vigne de Naboth. Alors il use de violence pour arriver à ses fins. Et je demanderai à nos amis là de bien vouloir mettre le premier dia, qui montre la structure concentrique en cercle, comme ça, qui met au centre le cœur du problème que j'ai mis en rose, si vous arrivez à le voir, en rose, où on voit que Jézabel, la femme perfide, n'hésite pas à promettre la vigne. Elle dit « Moi, je te donnerai la vigne de Naboth », même s'il faut au passage liquider son propriétaire. Et puis, en bleu autour, eh bien, vous avez le deuxième problème. Achab se laisse séduire et gouverner par une païenne. On sait que Jézabel, c'était une fille de Sidon et surtout qu'elle n'avait aucun respect pour Dieu. Et puis vous avez le troisième problème en rouge autour, c'est que Achab est rempli de convoitise. Et comme le dit l'apôtre Jacques, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est tout à fait le portrait du roi Achab. S'il avait eu le moindre respect pour l'Éternel, il n'aurait jamais demandé à Naboth de lui donner sa vigne. Parce qu'il savait très bien qu'en Canaan, en Palestine, chaque clan familial avait son patrimoine foncier accordé par le Seigneur. C'est écrit dans la loi, dans le Lévitique, dans les Nombres. Dieu est un Dieu d'ordre qui aime la justice et l'équité. Il avait donné à chaque clan familial le lopin de terre pour que chacun puisse vivre en paix en subvenant aux besoins de sa famille. Alors Naboth, c'est pas un vieux ronchon qui est rebelle et révolté contre le roi, non. C'est un homme juste qui respecte la loi de Dieu. Il n'a pas crainte de s'opposer au roi, car il sait qu'au-dessus du roi règne le roi des rois, devant qui nous devrons tous rendre des comptes. Et Naboth a cette force tranquille qui ose dire non, qui ose refuser tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Naboth ne se laisse pas intimider, il ne se laisse pas corrompre, même si ça va lui coûter très cher. Et dans les versets 1 à 6, on voit que Akab n'obtient pas. Eh bien, ces versets sont écrits avec une certaine ironie. Parce que dans toute l'histoire, Naboth ne dit qu'une toute petite phrase au verset 3. « Loin de moi, loin de l'Éternel, de te donner le patrimoine de mes pères. » Mais cette petite phrase va faire monter la colère d'Akab. Mais quelque chose, c'est quelque chose. Quoi, on ose résister au roi? Mais Akab, il fulmine et puis il va ruminer ses paroles. On l'imagine, qui tourne en rond chez lui en se répétant « Ah, ce Naboth, je le déteste, lui qui m'a dit « Je ne te donnerai pas le patrimoine de mes pères. » Et voilà qu'il répète la parole de Naboth au verset 4. C'est intéressant, au passage, Akab, quand il répète les mots de Naboth, eh bien, il oublie, entre guillemets, la référence à l'Éternel. Et puis, une troisième fois, on entend ces petits mots de Naboth, parce que Akab va encore les répéter à Jézabel. Au verset 6, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Cette fois, alors, il n'y a plus aucune référence à l'Éternel, plus aucune référence au patrimoine foncier accordé par Dieu. C'est logique. Akab évite de parler de Dieu devant sa femme païenne qui, en plus, déteste l'Éternel. Et ben, dans ces premiers versets, on le voit, les trois répétitions de la petite phrase de Naboth donnent finalement une grande importance aux paroles de cet homme juste. Quelle ironie! Le verset 7 nous fait comprendre les manœuvres de Jézabel. Elle commence par une parole de séduction. « Est-ce bien toi qui règnes sur Israël ?» Sous-entendu, montre un peu tes muscles. T'es roi, non ? T'as le pouvoir, vas-y. Puis ensuite, elle lui susurre à l'oreille des ordres positifs. « Lève-toi, mange, que ton cœur soit content. » Sous-entendu, ne te laisse pas abattre par ce pauvre nabo de Naboth. Puis elle montre sa détermination à soutenir son mari en lui promettant « Moi, je te donnerai la vigne de Naboth ». Un « moi » de toute puissance, un « moi » très fort qui ose défier le roi des rois. Et c'est ainsi que Jézabel prend le pouvoir sur son mari et qu'elle l'entraîne dans le crime. Le roi se laisse mener par le bout du nez, mais c'est vraiment pathétique. Il ne demande même pas à son épouse comment elle va acquérir la vigne de Naboth. Non, Akab se désintéresse totalement de la justice de Dieu. Sa convoitise parle en premier. Cette vigne adossée à son palais, il la veut. Et quand le roi veut quelque chose, eh bien, il doit l'avoir, c'est normal. Même si Jézabel prend le pouvoir, et même si Naboth doit y laisser sa peau. Là encore, quelle ironie! Ce roi si riche, parce qu'on apprend au chapitre suivant qu'il s'est construit une maison d'ivoire, ce roi si riche ne réalise pas qu'en voulant posséder toujours plus, eh bien il va perdre toujours plus dans une effroyable descente en enfer. Il se croit fort, mais en réalité, qu'est-ce qu'il est lâche. Au verset 8, il laisse Jézabel écrire en son nom, en cachetant du sceau du roi, pour décréter la mort de Naboth. Mais quelle prise de pouvoir sur son mari! Et dans les versets 9 à 10, là encore, c'est très bien écrit, il y a 7 impératifs que Jézabel donne pour tuer Naboth. Alors 7, c'est la perfection. C'est encore une ironie là pour montrer la totalité, la monstruosité du mal commis. 7 impératifs. 1. Proclamez un jeûne. 2. Faites asseoir Naboth à la tête du peuple. 3. Faites asseoir en face de lui 2 hommes sans morale. 4. Qu'il témoigne contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi ». 5. Menez-le dehors. 6. Lapidez-le. 7. Qu'il meure. C'est clair. Quant aux anciens et notables de la ville, ils ne valent guère mieux qu'Akab. Ils se laissent entraîner par le mal en faisant exactement tout ce que Jézabel leur a dit. Et c'est intéressant, on retrouve les 7 mêmes verbes dans le récit du meurtre. Pourtant, ces anciens et notables, ils connaissaient Naboth. Ils savaient que ce juste ne maudissait pas Dieu et le roi. Et puis, ils voient bien que l'ordre du roi est abject puisqu'il repose sur le faux témoignage d'hommes sans morale, des vauriens. Mais c'est tellement plus simple d'obéir au plus fort pour s'assurer la bienveillance et la protection du roi. Mais ce que les anciens et notables n'ont pas vu, c'est que Dieu est au-dessus du roi et qu'un jour, eux aussi, ils devront lui rendre des comptes pour le meurtre de Naboth. Dans les versets 14 et 15, il y a des dialogues qui se contentent de faits bruts et succincts, sans aucun état d'âme. Là encore, c'est dégoûtant. Les anciens et notables disent à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort, c'est tout. Puis Jézabel donne à nouveau des ordres à Akab, et puis elle lui dit, prends possession de la vigne de Naboth, le Jisraélite qui avait refusé de te la donner pour de l'argent. Naboth n'est plus en vie, il est mort, c'est tout, circulez, il n'y a rien à voir. Et Akab s'empare de la vigne sans état d'âme. C'est vraiment abject. Surtout que pour s'emparer d'un patrimoine donné par l'Éternel à tout un clan familial, il fallait non seulement tuer le propriétaire, mais aussi toute sa descendance. Et ça nous est confirmé dans 2 Rois 9. Naboth et ses fils, et peut-être des belles-filles et d'autres, ont été liquidés. Alors passons maintenant au verset 17 à 29. À nouveau, on retrouve cette même structure en cercle. Il y a un deuxième dia, si vous voulez bien le montrer. Et ça répond aux 3 problèmes qu'on a vus dans la première partie de notre texte. Au centre, il y avait le premier problème avec Jézabel et sa promesse perfide. Et bien maintenant, au centre se trouve la morale de l'histoire. C'est à cause de la perfidie de Jézabel que le règne d'Akab a été si pitoyable. Autour de ce centre, on avait le deuxième problème qui était Akab qui se laissait corrompre, commandé par Jézabel. Et bien maintenant, en réponse à ce deuxième problème, Akab est jugé et humilié de s'être laissé corrompre. Et puis encore autour, on avait le troisième problème, la convoitise d'Akab pour la vigne de Naboth. Et bien maintenant, Dieu révèle, par l'intermédiaire du prophète Élie, Dieu révèle la convoitise d'Akab, le meurtre d'Akab, et s'apprête à le punir. On ne se moque pas impunément du Dieu vivant. Dans les versets 17 à 19, le Seigneur confie à son prophète la lourde tâche de confronter Akab et de lui annoncer le jugement. Élie obéit sans broncher. Bien sûr, Dieu ne prend pas un malin plaisir à juger. Il applique simplement la loi du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, ou autrement dit 100%, sang léché par les chiens pour sang léché par les chiens. Verset 20. Ah, tu m'as trouvé mon ennemi. L'accueil d'Akab est plutôt froid. Il faut dire que les précédentes rencontres avec le prophète ont été pour le moins difficiles. Lors de sa première visite au roi, Élie avait annoncé 3 ans de sécheresse parce que les Israélites du Nord avaient abandonné l'Éternel. Et puis 3 ans plus tard, Élie réapparaît pour confronter les 450 prophètes de Baal. Vous vous souvenez de cette fameuse histoire au Mont Carmel où Élie finit par tuer ces 450 prophètes. Et ça ne plaît pas du tout à Jézabel, parce que c'est justement elle qui avait tué les prophètes de l'Éternel pour pouvoir instaurer un culte à Baal. Il y a donc de vieux contentieux entre eux. Et Élie est du genre très confrontant pour le roi Akab. Surtout que le jugement qu'il annonce au roi ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Jéroboam, le premier roi d'Israël. Le Seigneur avait dit à Jéroboam, « Je fais venir un malheur sur la maison de Jéroboam, je retrancherai de chez Jéroboam tout mâle, l'esclave comme l'homme libre en Israël. » Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens et celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. Jéroboam, il a régné 60 d'années auparavant et toute sa maison a été décimée par Baasha. Et à son tour, Baasha a été si mauvais que Dieu lui a envoyé un prophète pour lui dire « Je balaye Baasha et sa maison, je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. » L'histoire se répète. « Celui de la maison de Baasha qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens, celui des siens qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. » C'est pas très gai, cette période en Israël. En 60 ans, il y a eu 6 rois différents. Ça montre combien cette période est troublée. Et après cette malédiction contre Baasha, eh bien, toute sa famille est décimée par Zimri, qui n'a régné que 7 jours. Et puis vient Omri, le père d'Akab. Donc forcément, Akab connaît toute cette histoire récente des rois d'Israël. Et puis il sait très bien qu'il n'est ni le descendant de Jéroboam, ni le descendant de Baasha. Et que ses prophéties contre eux se sont réalisées. Donc il sait très bien que la prophétie contre lui va aussi se réaliser. Jéroboam, Baasha et Akab, les 3 pires rois d'Israël, au point que le nom de Jéroboam sert à décrire tous les mauvais rois. Jéroboam a été particulièrement mauvais car il a provoqué la division du peuple d'Israël, tandis que la lignée de David, vous le savez, régnait à Jérusalem, au sud de la Palestine, eh bien Jéroboam a pris pour lui les 10 tribus du Nord. Et pour cimenter ces 10 tribus sous son autorité, pour éviter qu'ils ne reviennent à Jérusalem pour les fêtes juives et ne reviennent sous l'autorité de David, de la lignée de David, eh bien Jéroboam a inventé un nouveau culte. Donc il s'est détourné de l'Éternel. Et il a entraîné les 10 tribus loin de l'Éternel. Et c'est aussi ce que Akab va faire en se laissant dominer par une femme rebelle à Dieu. Eh bien, il se détourne lui-même de l'Éternel, mais il va entraîner aussi tout le peuple dans un culte à Baal, le dieu de son épouse. Et il y a là un avertissement pour les responsables. Lorsqu'un responsable se détourne de l'Éternel, c'est toute la communauté qui l'entraîne souvent loin de Dieu. Et c'est pourquoi le jugement est si sévère. On retrouve ça aussi, on a un certain parallèle dans le Nouveau Testament avec les enseignants dans l'Église. Akab finit bien tristement sa vie dans l'attente d'un terrible jugement. Pourtant, il ne montre pas le signe d'un véritable repentir. Aucune prière à Dieu pour implorer sa grâce et son pardon. Non, le roi est trop endurci. Le seul adoucissement qu'il obtient, c'est de ne pas voir le massacre de toute sa descendance. Dans l'Ancien Testament, les 2 seules réapparitions du couple d'Akab et Jézabel, ce sont les récits de leur mort. Une mort qui s'accomplit exactement selon la parole du Seigneur. 3 ans plus tard, Akab meurt au combat. Blessé, il saigne toute la journée dans son char avant de mourir. Son char est lavé à grande eau, ce qui attire les chiens qui lécheront son sang. Quant à Jézabel, elle meurt une quinzaine d'années plus tard. Ses serviteurs la jettent du haut de sa maison et Jézabel tombe dans le champ de Naboth. Les chiens dévorent son cadavre de sorte que on ne pouvait plus dire après « c'est Jézabel ». Oui, qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le jugement d'Akab est effrayant. Surtout que ce roi avait eu connaissance de l'Éternel. Mais il a préféré satisfaire ses propres désirs. Et l'apôtre Jacques décrit bien le processus qui fait tomber Akab et tant d'autres après lui. Jacques dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Et c'est un sérieux avertissement pour nous aujourd'hui. Car nous vivons dans une société où tout est fait pour satisfaire à l'instant présent nos plaisirs et désirs. Alors bien sûr, il n'y a pas de mal à se faire de petits plaisirs de temps à autre. Mais lorsque ces plaisirs délaissent l'amour et la justice de Dieu, lorsque ces plaisirs se font au détriment d'autres êtres humains, alors nous devons réagir et refuser de nous laisser corrompre. Naboth et ses fils ont été exterminés injustement. Malgré son amour pour le Seigneur, Naboth est mort dans des circonstances abjectes. Et on a chanté tout à l'heure, Dieu donne, il reprend. Et oui, il a repris la vie de Naboth. Naboth n'a pas obtenu de délivrance. Mais sa justice a mis en lumière l'injustice et la haine d'Akab. Mieux encore, le témoignage de Naboth nous parle, encore aujourd'hui bien sûr, mais il nous parle d'une autre mise à mort injuste, celle de Jésus-Christ bien sûr. Lui aussi a été liquidé pour des motifs crapuleux et sans aucune forme de procès véritable. Mais Dieu voit ces injustices. Et c'est là aussi notre consolation. Dieu les note dans son grand livre et il punira les injustes au jour du jugement. Enfin, l'Épître aux Hébreux affirme que beaucoup de croyants ici-bas n'ont pas voulu de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. C'est étonnant, cette résurrection meilleure ou supérieure. N'est-ce pas celle qui se vit en étant fermement attachée à Jésus-Christ, tout près de son cœur? Cette résurrection qui survient après des injustices et des souffrances, comme le Christ. Alors n'ayons pas peur de ce que nous avons à souffrir. Le Seigneur nous accompagne sur notre route. Mais ne soyons pas étonnés si parfois surviennent des injustices et des souffrances. Cultivons l'amour et la justice de Dieu. Demandons-lui les armes de son esprit afin de tenir bon dans les mauvais jours. Et réjouissons-nous, une merveilleuse résurrection nous attend, une vie nouvelle dans le royaume éternel du Père. Amen.
Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.